sens. Marie-Ange de Montesquieu.
Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille, nous lance Mère Teresa. Alors qu'avait lieu samedi, figurez-vous, la journée internationale des frères et sœurs. L'occasion de s'interroger ce matin sur ce lieu béni que serait la famille dans nos rêves les plus fous. Image, les frères et sœurs jouant tranquillement ensemble, des parents tendrement proches et veillants, l'air amoureux sur ce foyer où l'harmonie règne. Tout est calme, tous sont heureux, mais je vous sens précisément à cet endroit décroché, ceci n'étant bien souvent qu'un fantasme, la preuve par la statistique, près d'un adulte sur deux est en conflit avec son frère ou sa sœur et s'en culpabiliserait. Alors question, si cette belle et douce entente fraternelle est un rêve pour tous, le sentiment fraternel est-il si naturel? C'est la question du jour, tant en quelque sens. J'ai la joie d'en parler avec mes trois invités ce matin. Trois invités fort experts en la matière. Anne-Catherine, ça va? Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, psychopraticienne, on est lundi matin, formatrice en communication et gestion de conflits, et vous publiez Une famille enfin paisible aux éditions du Rocher. On va voir si c'est le cas et comment faire. Gérard Haddad est également avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste de votre côté. Vous avez publié À l'origine de la violence chez Salvatore d'Oedipe, K1, une erreur de Freud. Alors que les auditeurs ne s'inquiètent pas, ce n'est pas qu'une affaire d'intellectuel et de lacanien qui serait absolument
habitable. Je vous signale qu'il y a un point d'interrogation après une erreur de Freud.
Ben écoutez, voilà, on en parlera dans quelques instants avec Muriel Sibilla, qui est également avec nous au bout du fil. Bonjour madame, bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors, vous êtes, vous avez été professeur de lettres, vous avez été journaliste, responsable d'un service de communication au sein d'une agence des Nations Unies, pour être précis. Et vous vous consacrez maintenant à la collecte et à la rédaction d'Histoire de vie. Et vous avez justement publié « Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades » aux éditions Slatine, qui est une autre question qui fait partie de celle-ci dans certains cas, effectivement, qui est celle du sentiment fraternel. Est-il naturel? Alors, j'ai presque envie, nous sommes sur Radio Notre-Dame, c'est tout à fait raccord. Nous sommes dans Enquête de sens et, effectivement, nous connaissons tous cet épisode de Cain et Abel. Gérard Haddad, qui vous est très familier, forcément, dans votre livre, vous en parlez. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est l'éternelle question sur laquelle on ne s'entendra vraiment jamais, j'ai l'impression. C'est très mal compris, d'abord. Suis-je le gardien de mon frère?
Mais attendez, avant d'être le gardien de mon frère, il y a toute l'histoire. La Bible, chapitre 4, ouais, s'ouvre comme acte fondateur. Deux frères, les deux premiers hommes créés par les voies naturelles, alors que Adam et Ève, c'est autre chose, hein, n'est-ce pas? C'est des fabrications. Premier acte qu'ils commettent, c'est ce crime, ce fratricide, et de ce crime originel, comme disait Scarlatti dans un de ses opéras, vont naître un enfant qui va inventer la technique, un autre enfant qui invente les arts et la musique, un troisième qui invente la cité, c'est-à-dire que l'humanité est née d'un fratricide, et pas comme Freud le pensait, dans Totem et Tabou, d'un parricide originel. Donc, je trouve que la lecture biblique, indépendamment de notre foi ou pas foi, nous enseigne quelque chose de fondamental. Ouais. Et ça continue, parce qu'après, nous avons Jacob et Ésaü, nous avons Joseph et ses frères,
absolument,
nous avons Salomon qui tue son frère, et Absalom qui tue son frère. Bref, toute la Bible nous enseigne.
On a de quoi faire.
Et saint Augustin nous dit que lorsqu'il a vu naître son frère au sein de sa mère, et il en a crevé, quoi. Il était dans un état épouvantable. Donc, nous avons toute une tradition qui nous enseigne que c'est pas évident.
C'est vrai qu'on bouillonne souvent quand on voit dans les grandes familles le grand frère qui apprend que sa maman, par exemple, est enceinte d'un petit frère ou d'une petite sœur, est en même temps ravi que ça arrive et en même temps envie de le tuer quand il arrive. N'est-ce pas, Anne-Catherine Savard? C'est la base.
Alors, oui, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre comment chaque enfant peut réussir à trouver sa place sans tuer l'autre. Parce que finalement, amener la paix,
on peut y arriver
à la paix, on peut plus ou moins y arriver. C'est-à-dire que, d'abord, avant de tuer l'autre, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit tuer aussi en nous? Quelles illusions, quels fantasmes de toute puissance, quel deuil on doit faire, en particulier le deuil que le monde ne tourne pas autour de moi, mes parents ne tournent pas autour de moi, et je dois partager la lumière, le soleil, ma place avec les autres. Et ça, c'est tout le défi de l'humanité, enfin des êtres humains, c'est d'arriver à penser à penser, évidemment, leurs affects, à penser leurs réflexes archaïques, à penser PENSER, mais aussi PANSER, bien sûr, puisqu'à la base de tout ça, il y a toujours les mêmes blessures, hein, ouais. Les peurs d'être rejetées, les peurs d'être abandonnées. Il ne faut pas oublier que nous avons un cerveau archaïque qui nous dit, en gros, que si on est rejeté du clan, on est en danger de mort, hein, parce que chez des animaux qui vivent en meute ou en
chez les loups, par exemple,
chez les loups, absolument, en société, ouais. Si à un moment donné on se trouve en rivalité avec quelqu'un et que notre place est menacée et qu'on se fait virer du clan parce que on a, pour quelle que soit la raison, on a abusé ou on a comment dire, dépasser les limites ou remis en question les règles, notre chance de survie est extrêmement ouais. faible. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand le petit enfant de 2 ou 3 ans voit arriver un petit frère ou une petite sœur, il se dit « ça y est, je suis en danger de mort ». C'est ce que son cerveau archaïque lui dit.
Ouais.
Donc, il va falloir essayer d'apaiser tout ça et de comprendre.
Et on est là ce matin pour essayer de voir, pour les futurs parents qui nous écoutent ou les parents actuels qui ne s'en sortent pas entre les bastons de leurs enfants, justement, ça peut être
quel
toujours
dur
bon
apprentissage quand même. Il faut ouais. ajouter aussi une chose, je viens de le lire là sous la plume de Freud, tout dépend de l'écart d'âge. Si vous êtes déjà, vous avez 10 ans, oui. Que un bébé arrive, c'est pas la même chose lorsque vous avez 1 an ou 1 an et demi.
Ah bon?
Et que vous, bah oui.
Pourquoi?
Parce que là, vous êtes encore en pleine détresse. Vous, avez, oui. vous marchez à peine. Vous venez d'être sevré. Et voilà que ce petit imbécile ou la petite idiote qui arrive, et on les voit au sein de maman, on les voit pris dans les bras, alors que vous-même oui. vous tanguez. Si vous êtes déjà grand, il peut arriver que vous-même vous mettiez en position
de maman ou de papa.
Voilà.
Ouais.
Et c'est ce que raconte Freud à propos du président Wilson. Mais c'est un dur apprentissage. Moi, je pense que même là, il est
faut être humble. Hein. Ouais. Oh, c'est ça que vous êtes en train de dire.
C'est la leçon. C'est ce que nous devons apprendre. La fraternité, c'est un magnifique sentiment, mais c'est une conquête. Et c'est pas un point de départ.
Il faut toujours se remettre en question à ce niveau-là. Muriel Sylvia, que cela vous inspire-t-il? C'est vrai que vous parlez d'enfants gravement malades. Quand on arrive, c'est vrai, avant même ou après, là, pour le coup, ils sont le centre, évidemment, de l'intérêt et de l'inquiétude de tous les instants de leurs parents. Pas simple pour les frères et sœurs, évidemment. Mais c'est par rapport aux parents, vous voyez où je veux en venir les uns les autres. Finalement, c'est peut-être la réflexion est celle-ci. Finalement, est-ce que c'est ce sentiment de haine passagère, en tout cas de cruauté qu'on peut ressentir à l'égard d'un ou de l'autre dans notre fratrie, c'est peut-être relatif aux parents, à l'amour que évidemment les parents nous portent, ou pas, ou moins le sentiment qu'on en a, en tout cas, n'est-ce pas, Muriel Sylvia?
Oui, en fait, tout ce qui vient d'être dit est encore plus vrai dès lors qu'il y a un enfant qui est gravement malade au sein d'une famille. C'est-à-dire que notamment ce sentiment de jalousie, d'envie, de rivalité est extrêmement puissant parce que les parents, quels que soient les efforts qu'ils font pour rester attentifs à tous leurs enfants, dès que l'un d'eux est en danger de mort ou souffre d'un handicap très puissant ouais. ou a une maladie psychique, sont absolument, il y a une part d'eux-mêmes quasiment involontaire qui est centré sur la nécessité d'aider le mieux possible l'enfant qui est en difficulté.
Ouais.
Et donc ça a des conséquences extrêmement puissantes sur les autres enfants. Alors tout dépend de leur âge aussi, hein. ils vont percevoir ça de manière différente selon que ce sont des petits enfants ou déjà des ados. Mais tout ce qui vient d'être évoqué, le besoin de la peur d'être abandonné parce que tout d'un coup, il semble que l'amour des parents est complètement concentré sur celui qui est en difficulté. Et puis, si ces sentiments de rivalité, de jalousie, etc. sont absolument naturels dans n'importe quelle fratrie et normaux, entre guillemets, à partir du moment où il y a une maladie très, très grave, ces sentiments sont encore plus refoulés que dans d'autres situations, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à être agressif, à être jaloux, et l'entourage, que ce soit les parents ou que ce soit la famille au sens beaucoup plus élargi, ne va pas supporter l'expression de rejet ou d'agressivité de certains membres de la fratrie vis-à-vis de celui qui ne va pas bien. Donc du coup, ils vont refouler tout ça, et voilà.
Surtout ne pas avoir l'air d'être déplacé, surtout d'avoir l'air d'eux. En fait, c'est ça, en résumé, ce que nous raconte Muriel Skibilia, Anne-Catherine Sabat.
Oui,
avoir
alors,
l'air d'être bien, d'être irréprochable.
Alors, avoir l'air, malheureusement, dans notre société, on est obligé, quelles que soient les circonstances, parfois d'avoir l'air. Mais c'est là où le cabinet du psy est important, parce que nous, qui recevons les confidences de
plus
nos patients, de nos analysants, on les accompagne pour justement faire le point et oser ressentir et dire qu'ils peuvent en même temps être extrêmement inquiets pour ce frère ou cette sœur. Il ne faut pas l'oublier, cet aspect.
Hein, oui, quand même.
Ils peuvent être extrêmement inquiets. Ils sont aussi inquiets et désespérés par la détresse de leurs parents. Hein, on a aussi des frères et sœurs qui prennent en charge la détresse de leurs parents et qui essaient de les soulager au maximum. Parce que, là encore, les parents tristes, les parents affaiblis, c'est une menace aussi pour le clan. Hein. Et puis, en plus de ça, bien sûr, comme ça vient d'être exprimé, il y a la jalousie, la colère que cet enfant malade ou problématique prenne toute la place. Donc, il y a plein de sentiments ambivalents.
Vous en oubliez un,
Gérard Haddad.
Le vœu de mort.
Oui, bien sûr.
Le vœu de mort. Vous savez que le frère Freud a eu un petit frère qui était malade, qui s'appelait Julius, et Freud écrit dans une lettre à son ami Fliss, j'ai eu envie qu'il meure, et il est mort. Et il dit, j'en ai éprouvé un intense sentiment de culpabilité. Il faut pas oublier.
C'est terrible, hein. On n'est jamais satisfait, même pas de ses crimes.
Excusez-moi. N'oublions pas quand même un personnage dans tout cela, c'est la mère. Une mère qui enfante un enfant handicapé, trisomique ou autre chose, éprouve une blessure narcissique, elle a l'impression que c'est de sa faute.
Ouais.
Et ça crée une dépression chez la mère, souvent. Et ça, c'est un facteur important psychologiquement. Est-ce qu'on peut... Comment supporter la blessure de l'autre? Ce que Freud appellerait comment supporter la castration de l'autre. Et ça, c'est un grand problème.
C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est très mélangé. Hein. C'est quand même très difficile quand on n'a pas la chance d'avoir rencontré un Gérard Haddad ou une Anne-Catherine Sabat sur son chemin.
Soyons modestes, vous savez, nos moyens sont très limités.
Mais écoutez, oui, mais vous arrivez quand même à décortiquer certaines choses, et notamment ce mélange qui est les sentiments mélangés. C'est-à-dire
c'est
en même temps, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, mais j'en suis jalouse, mais j'ose même pas me le dire. En même temps, je suis agressive. Du coup, c'est compliqué de détricoter tout ça, l'un et l'autre.
La vie humaine, vous croyez que l'espèce humaine, c'est une espèce malade d'origine, n'est-ce pas?
On se répare comme on peut, quoi.
Voilà, on passe notre vie à penser nos blessures, à les penser P-A-N et P-E-N.
Ouais.
Et c'est un rude métier,
c'est passionnant,
d'être
c'est...
humain. C'est
ouais.
un rude métier.
Alors, allons-y, Anne-Catherine.
Oui, on passe notre vie à penser nos blessures, mais on passe aussi notre vie à faire la différence entre nos sentiments et leur mise en acte. Parce que détester quelqu'un
c'est pour ça
qu'on va tuer. Sa mort dans l'absolu où est
on
le problème.
Pas tous Freud, hein, ouais.
Il suffit de regarder des films, de lire des romans, et on peut donner libre cours à nos pulsions. D'ailleurs, ils sont faits pour ça. Hein. Il y a un aspect cathartique important. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand on va passer à l'acte. Le problème, c'est quand on essaie d'étrangler son petit frère ou qu'on lui balance ses Lego dans la figure. Et nous, ce qu'on
scène
essaie
de
faire,
non,
et oui,
voilà.
Et malheureusement, ça existe. Moi, j'ai assisté il y a pas très longtemps dans mon cabinet. J'ai une patiente qui a deux enfants, un bébé et un enfant de 4 ans, et le bébé est encore au sein, et au moment où le bébé a besoin d'être allaité, l'autre enfant arrive sur ses genoux et essaie de pousser l'autre, et le bébé se met à hurler, est en détresse, enfin voilà, il y a quelque chose d'important qui se joue. Alors on travaille là-dessus, c'est intéressant, et l'enfant plus grand réalise que finalement, quand la petite sœur va grandir, ça va être sympa aussi parce qu'on pourra parler avec elle. Hein. C'est-à-dire que ces pulsions agressives, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire?
On les sublime.
Ben voilà.
Et quoi, ouais. Alors justement, vous avez une idée, Muriel Skibilia, comment on fait justement, quand on en arrive là?
Ben, je crois que la première chose, c'est de permettre et de faire en sorte que la parole puisse s'écouler, que ces jeunes puissent, à un moment donné, exprimer ce qu'ils ressentent.
Entre eux
extrême. Alors, entre eux, mais aussi et surtout peut-être avec des grands, c'est-à-dire des membres de l'entourage, des grands-parents, des oncles, des tantes et des thérapeutes. Alors, dans certains cas, c'est difficile parce que, par exemple, avec les jeunes avec qui j'ai travaillé, pour certains d'entre eux, dans les hôpitaux, on mettait à leur disposition la possibilité d'avoir une consultation avec un thérapeute. Et c'est pour certains d'entre eux, ce n'était pas possible parce que reste encore l'idée qu'aller voir un psy, c'est quand on est fou.
Mmh.
Donc il faut aménager.
Mmh.
Oui, de manière très... Bon, ça dépend des familles, ça dépend des milieux, etc. Mais c'est encore assez prégnant. Et je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur la blessure narcissique que peuvent éprouver les parents quand l'un de leurs enfants est en situation très compliquée. Ça a des conséquences extrêmement fortes sur les frères et sœurs parce que il y a un endroit où les parents sont tellement bouleversés, tellement chahutés par ce qui arrive, et surtout quand ça se prolonge pendant très très longtemps, qu'il y a quelque chose qui est très difficile d'intégrer et même de percevoir, c'est l'idée que les autres enfants puissent aller mal. Il y a cette espèce de besoin, on a un problème au centre de la famille, ok, on va le gérer, on va essayer de faire tout ce qu'on peut, mais les autres, il faut vraiment que ça aille bien. Et c'est quelque chose que les frères et sœurs captent très bien et qui les amenait à toute une série de comportements, à savoir à taire leurs émotions, à ne pas s'autoriser même à les ressentir, donc, mais elles sont là quand même, et puis à oublier petit à petit quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, et du coup leur chemin bifurque, et il y a tout un travail à faire pour les aider et les amener à reprendre la main sur ce qui devrait être leur propre vie.
Ah, c'est très intéressant ce point-là, merci Muriel de l'évoquer, Gérard Haddad, effectivement, c'est ce qu'on appelle le déni ou pas ? Parce que moi qui ne connais pas grand-chose,
bah, vous connaissez beaucoup de choses. Vous savez, il y a l'usage professionnel de certains termes et il y a l'usage courant.
Alors, en tout cas, c'est ce que vous percevez, ça, j'imagine. C'est la base, effectivement. Certains patients, alors ceux qui viennent vous voir, j'imagine qu'ils commencent à avoir un signal qui s'allume en disant, mais peut-être que je ressens vraiment des choses, finalement.
Vous savez, dans la pratique analytique, c'est un peu l'objet de mon livre, c'est que pendant longtemps... Les analystes ne se sont pas intéressés à ces conflits...
Dans la famille
fraternels.
Fraternels, pardon.
Mais eux, ils étaient, la plupart de mes collègues, ils ont braqué sur le fameux Oedipe, c'est-à-dire du rapport conflictuel entre les enfants et les parents, c'est-à-dire entre le garçon et le père ou la fille et la mère.
Mais en fait,
ils disent tout ce qui concerne la fratrie, c'est pas intéressant. C'est de l'imaginaire, c'est secondaire,
etc. Hein.
Et là, c'est là que l'objet de mon livre, c'est de montrer que non, que... Le conflit fraternel, sororal, est fondamental. Et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant combien, me remerciant d'avoir ouvert enfin cette porte-là, alors que il y a vraiment un refoulement total sur cette question que comment peut-on haïr son frère ou sa sœur ?
C'est ça qui est inconcevable, en fait.
Aujourd'hui, dans notre société, c'est inconcevable. Alors que c'est le quotidien. C'est-à-dire d'une manière déplacée. On ne va pas forcément haïr son frère, on va haïr le collègue, on va haïr l'étranger. Mais qu'est-ce qu'un étranger ? C'est mon frère aussi.
Mais en fait,
frère humain.
Ce que vous voulez dire par là, Gérard Haddad, pour vous suivre, c'est qu'il faut passer par l'acceptation, pour reprendre effectivement ce que disait Muriel Sibylla, savoir que tant qu'on n'ose pas se formuler à soi-même qu'effectivement, bah, on est bel et bien jaloux de son frère et de sa sœur, par exemple, si ce n'est d'autres sentiments, eh bien, on ne peut pas surpasser cela, en fait. Il faut passer par là, il faut se le verbaliser, quoi. Première étape.
Bah, vous savez, tout refoulement, si c'est un refoulement, plutôt qu'un déni, un refoulement, ça renforce.
C'est pas top.
Ça renforce la motion agressive. Tandis que si vous le reconnaissez, ça prend une certaine relativité et vous pouvez... ça rejoint un peu cette belle phrase de la Bible, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh ben oui, tu es le gardien de ton frère, au fond, c'est ça que nous enseigne la Bible. Il faut que tu arrives à dépasser ton conflit et à être...
Pour pouvoir être le gardien de ton frère.
Voilà,
c'est un peu ça, c'est la
mutuellement,
finalité.
Et mutuellement.
Le sentiment fraternel est-il naturel ? C'est la question que nous nous posons ce matin avec nos trois invités, Anne-Catherine Sabat, Gérard Haddad et Muriel Sibylla. À tout de suite.
Le bonheur en musique, Edith Walter.
Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon défi.
Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, La Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir ?
Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie ?
C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi.
Génial ! Merci, mamie.
Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Le sentiment fraternel est-il naturel ? Gérard Haddad est d'humeur joviale ce matin, lui qui est psychiatre et psychanalyste, qui publie à l'origine de la violence chez Salvatore. D'Oedipe Aquin, une erreur de Freud, point d'interrogation. Anne-Catherine Sabat est également avec nous, qui est psychanalyste, psychopraticienne, formatrice en communication et en gestion de conflits, qui publie Une famille, enfant paisible, rocher. Et puis Muriel Sibilia, qui est avec nous également, qui se consacre à la collecte de rédaction d'histoires de vie et qui publie justement Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades chez Slatkin. Nous évoquions effectivement autour de cette question, le sentiment fraternel est-il naturel ? Réponse est a priori non, il faut le travailler, même si effectivement on est frère de sang, frère et sœur de sang, n'est-ce pas, effectivement, Catherine Sabat. Tout ça se travaille. C'est une affaire de lien avec les parents, mais vous disiez que vous conseillez de gérer ces conflits une fois qu'on les perçoit, une fois qu'on les visualise, qu'on les verbalise à soi-même, d'en parler. Alors pourquoi pas à des proches, à des oncles et tantes, ça c'est ce que disait Muriel, c'est ce que vous conseillez aussi, ou à un thérapeute quand on a la chance de pouvoir en voir un. Ça peut se faire, parce que quand on est enfant, c'est les parents qui gèrent ça dans un cabinet, quand les enfants s'étripent, ils viennent vous voir évidemment à ce moment-là, parce qu'ils n'en peuvent plus tout simplement.
Alors les parents gèrent comme ils peuvent et les parents sont partie prenante. Hein. La famille, c'est un système où chacun a une place. Et la relation qu'il y a entre un frère et une sœur, par exemple, va évidemment influer sur la manière dont les parents se positionnent avec l'un et l'autre. C'est très très complexe, c'est un système complexe. Alors évidemment, voir quelqu'un qui est extérieur à ça, ça sera plus simple parce que tout peut être dit. Parce que même le tonton ou la tata bienveillant ont aussi leurs préférences. Ils vont être un peu plus d'accord avec le père, avec la mère. Ils vont donner des conseils, ils vont dire aux enfants, tu sais, tu devrais être sympa avec ton papa parce que ceci, cela. Donc l'idéal, c'est à mon avis quand même d'aller voir quelqu'un d'extérieur.
Alors vous faites parler Guy Gilbert, nous manquons de parents adultes, de parents qui montrent l'exemple, tout simplement, la clé est là. Pour commencer, il faut d'abord, du côté des parents, alors sans culpabiliser les pauvres parents qui nous écoutent ce matin, j'ai pas envie non
surtout
plus.
Pas.
Non. Les pauvres.
Alors moi, je reçois peu d'enfants. Pour la simple et bonne raison que quand je reçois des enfants, en général, c'est les parents que je prends en thérapie, très souvent, très très souvent. Parce que vous disiez, Gérard, qu'il ne fallait surtout pas culpabiliser les parents, c'est certain. Mais je crois qu'il faut accompagner justement les parents pour se positionner. Parce qu'on est dans un monde où il y a eu beaucoup de changements depuis quelques dizaines d'années, où on est passé d'une éducation parfois un peu carrée, un peu rigide,
verticale,
à quelque chose de très flou, de très poreux, où on fait tout
et
n'importe quoi.
Aux enfants
et voilà, et c'est un peu ce que dit Guy Gilbert aussi, hein, c'est que il y a quand même une loi, il y a des règles, et on doit évidemment apprendre à les respecter pour pouvoir s'insérer correctement dans la société. C'est quand même le rôle des adultes, des parents, en tout cas, d'aider leurs enfants à faire ça. Et parfois, nous avons, les parents ont besoin d'être accompagnés pour ça. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur autorité, comment la poser. Ils ont peur de paraître méchants, ils ont envie d'être les
meilleurs amis, voilà, leurs enfants.
Ça.
Oui,
c'est très complexe tout ça.
Vous faites poursuivre Guy Gilbert, la jeunesse dans son désir de s'affronter, dit-il, à ceux qui doivent être autant cœur que rock et malade d'entendre, fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Tous m'ont dit un jour qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui leur dise arrête, ils ont besoin de règles, ils veulent du solide sur quoi s'appuyer, ils veulent des parents tendres, compréhensifs, mais trois petits points, intraitables. Gérard Haddad, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi j'ajouterais quand même une petite réserve parce que vous savez, à mes débuts de professionnel, il y a assez longtemps, il y avait un débat autour de ça. Est-ce qu'on prend en charge les parents ou les enfants ? La tendance dominante, c'était les parents. Et ben, moi, je suis pas d'accord. Parce que les enfants ont aussi leur parole. Mais il faut la respecter, cette parole. Et je ne crois pas que les parents peuvent entendre. Si un enfant dit à ses parents, tu sais, mon petit frère qui vient de naître, je le hais, j'en voudrais sa mort. Mais comment ? Mais tu peux penser ça ? Mais ça ne va pas. C'est impossible. Je pense que, Dieu merci, nous avons maintenant un développement extrêmement important des réseaux éducatifs, appelons ça psy, c'est pas un très joli mot, et donc c'est plutôt ces gens-là qui peuvent jouer ce rôle-là, à condition qu'ils le sachent. Or, aujourd'hui, ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas le savoir.
Ils sachent quoi ?
Que la souffrance d'un enfant peut autant de l'Œdipe que de ce conflit fraternel, que de ce complexe de Caïn, comme je l'appelle. Et ça, jusque-là, ils ne veulent pas le savoir. Et je pense que, grâce à vous et grâce à tout ce travail de mon livre, si vous voulez,
absolument,
que ça va ouvrir un peu les oreilles de mes collègues. Soyez attentifs à ce problème. Alors, ne le mettez pas sous cette chape de silence, que c'est pas bien de détester son frère.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant quand on grandit en âge. Il y a la question de la réussite des uns et des autres. Oui. Les différents âges, j'imagine que ça remplit vos cabinets les uns les autres. Et ça joue d'autant plus quand... qu'est-ce qui se passe quand on a un petit frère ou un grand frère ou une grande sœur ou une petite sœur malade, Muriel Silbia? On imagine que c'est encore pire. C'est-à-dire que le gap est énorme, si je puis dire. L'écart entre celui qui cartonne sur tous les plans, ça, j'imagine que ça peut arriver. Je ne sais pas s'il y en a un exemple dans votre livre, mais enfin, qu'en dites-vous?
Oui, absolument. Il y a notamment l'histoire de Michael qui a donné ses cellules à son frère qui avait une leucémie. Et au moment où il donne ses cellules, il se sent vraiment invincible. C'est un héros, il a sauvé la vie de son frère, c'est formidable.
Ouais.
Et il se retrouve dans une situation extrêmement ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'inquiétude toutes les angoisses qui sont suscitées par ce qui se passe. D'un autre côté, il y a une admiration sans borne parce que ce frère qui était malade, il a réussi à vaincre le cancer et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, ça met en place un écart entre les deux, c'est-à-dire que ce grand frère qui a donné ses cellules et qui est celui qui protège, celui qui aime, celui qui admire, en même temps, il va se mettre dans une position où celui qui a été malade a le droit à l'échec, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'il fait dans la vie, tout lui sera pardonné, alors que lui, rien ne peut lui être pardonné, il a l'obligation de la réussite. Et ça entraîne aussi un autre élément, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir ce que j'ai appelé l'effet boomerang, c'est-à-dire que les parents sont souvent dans cette espèce de tâche aveugle et ne voient pas ce qui se passe vraiment au sein de la fratrie. Et dans le cas de Michael, toujours, tout va bien. Une fois, 4-5 ans plus tard, celui qui a été malade va bien, la famille se calme un peu, reprend un tout petit peu une dynamique différente. Et c'est à ce moment-là que Michael s'effondre. C'est-à-dire qu'un matin, il ne peut pas se lever. Et ça dure un an. Pendant un an, il est en dépression et autour de lui, personne ne comprend. Ouais. Alors il a un papa qui se fâche parce que chez les hommes, on se lève tous les matins et on va faire ce qu'on a à faire. Et ça lui prend des années. Il fait partie de ces gens qui ne veulent pas aller voir un psy parce qu'à nouveau, ce n'est pas pour lui. Et ça prend des années pour que le lien soit établi entre ce qui s'est passé pour le petit frère et ce qui se passe pour lui des années plus tard. Et c'est pour ça que c'est très important que ces livres et tout ce que nous disons ici soient diffusés le plus largement possible pour que l'écoute soit un peu différente et qu'on soit attentif à des signes qui sont parfois des micro-signes et qui témoignent d'une souffrance très profonde au sein des fratries.
Ouais. Anne-Catherine Savage, vous voyez gratouiller quelque chose en réaction à ce témoignage ?
Parce que dans ce qui est expliqué, là, on comprend bien en effet qu'il n'y a pas la place et il n'y a pas l'énergie pour le frère ou la sœur qui va bien quand vous avez un frère ou une sœur qui a une leucémie. Ouais. Mais même avant ça, il n'y a déjà pas la place pour les parents. Enfin, les parents ne peuvent pas réaliser qu'eux aussi vont mal. C'est-à-dire qu'ils sont tellement mobilisés psychiquement, émotionnellement et concrètement, parce que quand vous avez un enfant malade qui doit aller à l'hôpital, qui doit suivre des traitements, qui doit être accompagné parce qu'il est handicapé...
Priorité, quoi.
Mais bien sûr, il y a une logistique complètement incroyable, des dépenses souvent, enfin, ça peut même entraîner une précarité, etc. Donc on est hyper occupés au jour le jour et on n'a pas le temps de se demander si on va bien ou pas. Donc les parents eux-mêmes, moi je reçois des parents qui ont un enfant malade et j'essaie de les amener petit à petit à accepter d'écouter ce qui se passe aussi en eux et leur peur, et la peur que leur enfant meure, et la colère aussi. C'est-à-dire que si les parents eux-mêmes sont dans un refoulement incontournable, si on peut dire, vu la situation, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie, les frères et sœurs, évidemment, prennent aussi exemple sur les parents. Donc on va taire les choses. Et c'est des familles, en effet, où il y a un silence terrible.
Gérard Adam. Dire,
oui, quelque chose. Allez-y. Bon, là, nous avons parlé des enfants malades, mais qui sont en soins. Mais vous avez aussi des enfants qui sont handicapés gravement, infirmes moteurs cérébraux depuis la naissance, ou une trisomie, enfin, toutes ces graves maladies, etc. Je voudrais... Nous sommes prisonniers d'idéaux sociaux, de la réussite, de l'enfant parfait, etc. Mais si on s'en débarrasse, et c'est souvent une expérience que l'on peut faire, que j'ai vécue, hélas, dans des conditions particulières, il y a, quand on aime, on découvre chez ces personnes, soit malades gravement, soit en fin de vie, soit grabataires, soit handicapées, comme on l'a dit, mais des choses magnifiques. Un enfant trisomique peut avoir des relations, une affectivité... des choses magnifiques à dire. On touche vraiment une humanité au-delà de cette socialité qui nous handicape par des idéaux de réussite sociale.
Uniformise, ouais.
Et dont il faut un petit peu se débarrasser. C'est le but d'une psychanalyse, d'ailleurs, de se débarrasser un peu de son narcissisme, si vous voulez. En tout cas, de le modérer. Parce que se débarrasser, il n'en est pas question.
C'est-à-dire que là, on approche aussi à la question qui... Alors, si vous, chers auditeurs et auditrices, vous n'êtes pas concernés forcément par un petit frère, enfin, un frère ou une sœur malade ou handicapé, il y a aussi la rivalité, de toute façon, qui arrive à propos de cette question fichue, question du narcissisme, Gérard Haddad, de celle de la performance. C'est-à-dire, ah oui, bah lui, il a tout réussi, pas moi, etc.
C'est bon, ça, oui.
Ça, j'imagine que ça, c'est
alors qu'il a basique. Peut-être des réussites dans d'autres domaines. Et puis, en plus, l'humanité, c'est quand même autre chose que ces réussites. On peut être...
Est-ce que c'est vraiment ça, la vraie question, dans les rivalités ? C'est ça que je savais. Dans la rivalité fraternelle, est-ce que ça rentre vraiment, vraiment, vraiment en ligne de compte, cette question de la différence de richesse quand on est adulte, ou de performance au niveau professionnel, ou est-ce ou que scolaire, c'est derrière autre chose, ou même scolaire, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que c'est la bonne question à se poser sur l'objet de la rivalité?
C'est souvent comme ça que ça se manifeste, ouais. La différence, etc. Il faut que mutuellement on se reconnaisse, que celui qui a réussi découvre quand l'autre, son frère ou son cousin, ou que sais-je, il a d'autres qualités, il a d'autres réussites qu'il a réussies dans sa vie, des réussites humaines, des réussites... Et ça, c'est la grande leçon de la vie à laquelle on parvient difficilement. Difficilement de comprendre qu'un être analphabète, par exemple, peut avoir une sagesse, peut avoir une générosité, que sais-je, des qualités humaines merveilleuses que n'a pas celui qui a brillamment réussi à Polytechnique ou à l'école normale, qui peut être un petit couillon prétentieux, et souvent fermé à ce que c'est vraiment un être humain.
Alors, si vous êtes charmant et que vous êtes polytechnicien, vous avez quand même le droit de rester à l'écoute de cette émission ce matin. Tout va bien
non,
se
non,
passer.
Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les polytechniciens et pour les normaliens.
Et les centraliens, ne les oublions pas, les énarques vont disparaître.
Et les agronomes.
Et les agronomes. Petit clin d'œil à mon papa qui nous écoute certainement.
Et que j'ai
Bref,
été. Je sais, j'étais
et que vous fûtes. Ouais. Eh bien, écoutez, vous avez un point commun. Anne-Catherine Sabat est toujours avec nous. Gérard Haddad également et Muriel Sibilia. Eh bien, je vous propose de laisser passer par ici un certain Jean-Jacques Goldman qui nous invite à rester ensemble ce matin. Pas une mince affaire. À tout de suite.
Radio Notre-Dame. Nous l'avons franchi, souviens-toi.
besoin de nos chemins qui se croisent. Quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi tout ça. Ensemble, nous l'avons franchi.
Souviens-toi, ensemble.
Nous l'avons franchi.
Souviens-toi, ensemble.
Nous l'avons franchi.
Ce mur peut-être parfois infranchissable, celui de la fraternité. Merci Jean-Jacques Goldman et François Dieudonné pour ce petit clin d'œil. À propos, ce matin, le sentiment fraternel est-il naturel? Nous nous posons la question. En compagnie de nos trois invités, Anne-Catherine Sabat, psychanalyste qui a publié Une famille enfin paisible au Rocher, Gérard Haddad, psychiatre et psychanalyste qui a publié de son côté À l'origine de la violence autour de ce mythe, pourquoi pas, oui, l'appeler mythe de Dit Paquin, une erreur de Freud, point d'interrogation, et Muriel Sibilia qui a publié de son côté Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades, des récits de vie, tout simplement aux éditions Slatkin, qui évoquent cette question. Des difficultés à vivre harmonieusement en fraternité, ce qui n'est pas simple, mais qui est possible, Anne-Catherine Sabat. Rassurez-nous un petit peu maintenant. Les parents qui nous écoutent ce matin, là, ils sont en train de se dire « Bon, c'est mal barré, de toute façon, ils vont se détester, comment faire ?»
Alors,
au début, comment on fait, par exemple, quand il y a le deuxième petit qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors déjà, il faut dire, il faut parler, il faut expliquer. Hein, il faut pas raconter à l'enfant, tu sais, ta maman, elle va partir en vacances une semaine, puis elle va revenir avec un vent qui sera moins gros et une espèce de truc qui braille dans un couffin. Non, non, mais c'est d'accord. Important parce qu'on me pose des fois des questions comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Est-ce qu'il faut cacher? C'est d'autant plus important de dire aussi quand il y a un avortement ou une fausse couche, il faut en parler aussi. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, on va expliquer. On va dire déjà aux frères ou à la sœur qu'il va y avoir un petit frère ou une petite sœur et on va, pourquoi pas, rêver avec lui. On va le faire parler de ça. Alors, comment tu l'imagines? Et est-ce que tu es content? Évidemment, dans l'idéal, il faudrait que les parents puissent entendre que non, il n'est pas content. Oui.
Ouais.
Parce que là encore, ce n'est pas parce qu'il le dit qu'il va
aller
l'étrangler.
Est-ce que tu m'aimeras moins, par exemple, s'il demande, est-ce que tu m'aimeras moins quand il arrivera?
Alors, parfois, les enfants posent la question.
Ouais.
Mais je crois que, moi, j'ai entendu cette phrase magnifique, une maman qui disait à ses enfants qu'elle avait un cœur pour chaque enfant.
Il faut trouver les bons mots aussi.
Mais oui, c'est pas parce qu'on aime les frites qu'on va plus aimer les pâtes. C'est pas parce qu'on aime notre voisine de gauche qu'on va pas aimer notre voisine de droite. Alors je prends des exemples un petit peu excessifs, mais l'idée c'est de comprendre que l'amour il ne se divise pas, au contraire. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime mon père, j'aime ma mère, et l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas comme vous vous souvenez l'école des femmes, des fans. Ah, c'est drôle là-dessus que je viens de faire. L'école des fans. Alors, tu préfères ton papa ou ta maman? Vous vous souvenez de Jacques Martin?
Ouais, bon. Ouais.
Mais non, il n'y a pas de préférence. Voilà. Donc on va faire parler l'enfant, bien sûr, pour l'accompagner et l'aider à se projeter aussi, parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer quand le frère ou la sœur arrive. Il y a aussi le partage de l'espace. On va le mettre où ce petit bébé? Est-ce qu'il va partager sa chambre avec le grand ou avec les grands? Est-ce qu'il va avoir une pièce pour lui? Tout ça, c'est des choses qu'on doit prévoir pour que déjà, il y ait un processus qui commence à être à l'œuvre. Ouais. Et après, bien sûr, quand il arrive, il faut
Après, je vous poserai la question de la préférence des parents de l'un ou l'autre.
Ceci dit, il ne faut pas trop saouler les enfants avec des discours trop longs, parce que ça, c'était Madame Dolto, c'était fou, quoi. À chaque geste, on faisait des commentaires too much. Ouais. Hein, il faut savoir. Et puis, il ne faut pas mentir, parce que c'est vrai que les parents, ils vont préférer un de leurs enfants.
Ça, c'est vrai ou pas?
Mais bien sûr que c'est vrai.
Parce
que tel enfant, d'abord, il y a autre chose. Il y a que les enfants sont des séducteurs. Il y a des enfants qui séduisent leurs parents. Tous les enfants cherchent à séduire.
C'est normal, on passe par là.
Et il y en a qui réussissent mieux que d'autres, par certaines qualités, par certaines attitudes.
Une serviabilité,
donc,
des choses comme ça.
Quand tu as un enfant qui est brillantissime, le narcissisme des parents vibre, et celui du père. Tiens, mon fils réussit ce que j'aurais aimé être. Et donc, du coup, il va préférer cet enfant. Alors, on ne va pas raconter, tout le monde est égaux. L'enfant, là, lui, il sait que le parent ment. Et les parents mentent toujours. Je dois dire quand même une chose importante. C'est que quand même, il ne faut pas trop noircir le tableau. C'est que on y arrive. On arrive à surmonter. Ce dont nous avons parlé, c'était d'un stade initial. De rivalité, de haine, tout ce que vous voulez. Mais après, la relation fraternelle est probablement la plus belle. Quand je dis fraternelle, je dis sororale aussi. Quel bonheur d'avoir une sœur, quel bonheur d'avoir un frère, de ne pas être seul dans la vie, les fils, les enfants uniques. C'est pas facile. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on parle aussi des enfants uniques, parce qu'on dirait ceux qui sont enfants uniques.
Bah, on reviendrait parce qu'on fera une émission peut-être sur les enfants uniques.
Ah, je reviendrai. J'adore votre radio. Et je reviendrai quand vous voulez, mais évitez les 9h du matin.
Oh, écoutez, bah, vous avez l'air plutôt en forme, Gérard, pour une matinée.
Peut-être.
C'est pas 7h non plus, il ne faut pas exagérer. Bref, effectivement, pour l'aîné, comment ça se passe, Muriel Sibilia? Alors, peut-être avez-vous un commentaire à ajouter à cette question de la préférence de la part des parents qui se voient parfois, ou même qui se ressent, de toute façon, on peut, je pense, le dire, le conclure, Muriel Sibilia. C'est vrai que c'est pas simple, hein, quand même, hein, les histoires de préférence ressenties ou même vécues pour de vrai.
Alors, il n'y a rien de jamais simple dans les histoires de fratrie et de relations avec les parents. Je ne sais pas si on peut parler de préférence de façon comme ça un peu généralisée, ou plutôt de différence. C'est-à-dire qu'on aime différemment chacun de ses enfants pour des questions d'affinité, mais aussi parce que selon les temps où on a eu un premier enfant, un deuxième ou un troisième, on n'est pas les mêmes parents. Donc, on ne crée pas la même relation avec un enfant. Avec le premier, eh ben, c'est lui qui nous apprend à devenir père ou mère. Donc, c'est un espèce de laboratoire. Avec le deuxième, on est déjà un peu formé, expérimenté. Donc, on va mettre en place d'autres choses. Ouais. Et il va y avoir cette combinaison entre une expérience du côté parental et la personnalité et le mode de fonctionnement de l'enfant. Donc, moi, je dirais plutôt vers... On aime différemment, et c'est effectivement mentir que de dire « je vous aime tous pareil ». Ça, c'est pas vrai.
Ouais.
Et la question de la vérité, c'est une question très, très importante. Elle est d'autant plus importante quand, justement, il y a soit un handicap sérieux, soit une maladie physique ou psychique. Les enfants et les jeunes captent tout. À n'importe quel moment, ils captent de façon à leur insu ou de manière directe. Et si on ne leur dit pas la vérité, eh bien, c'est la relation de confiance qui ne se construit pas, et ça, c'est dévastateur. Alors c'est important de dire la vérité, de la dire avec des mots gentils, c'est-à-dire en s'adaptant à chaque fois à l'âge et à l'évolution de l'enfant ou des enfants de la famille. Et puis, pour revenir à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, je voulais remettre au centre la place des grands-parents.
Oui.
Et en particulier quand il y a de la maladie, dans quelle qu'elle soit, au sein de la famille, les grands-parents ont une place absolument centrale, c'est-à-dire que c'est eux, quand ils sont là, quand ils sont encore vivants, quand ils ne sont pas trop éloignés physiquement, c'est eux qui vont permettre aux autres enfants de se sentir à nouveau pleinement membres de la famille et non pas à la périphérie de la famille, et à nouveau vont se donner le droit d'être des enfants avec tout ce que ça peut entraîner comme moment de régression, de transformation, etc., etc. Et enfin, sur l'histoire du sentiment naturel, est-ce que la fratrie est un sentiment naturel. On est d'accord, c'est quelque chose qui se construit. C'est en même temps un laboratoire formidable, puisque c'est là qu'on va expérimenter plein de relations, plein de sentiments très différents qui vont nous permettre, notamment l'ambivalence d'ailleurs, qui vont préfigurer un peu les relations qui vont se nouer plus tard à l'âge adulte. Et c'est aujourd'hui encore plus important qu'hier, on va dire, puisque sur la question de la rivalité, on est dans une société qui encourage la compétition et la rivalité, qui en fait vraiment les étendards. Or, ce qu'il nous revient de faire, c'est de nourrir la relation fraternelle, de remettre en place cette relation qui est en fait au centre de notre société de manière quasi historique, c'est-à-dire que dans les sociétés chrétiennes, le lien fraternel est très valorisé. On a le Christ qui est le frère aîné de tous les chrétiens, le premier-né d'une multitude de frères. C'est aussi ce qu'on trouve sur le fronton de nos mairies, hein, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut vraiment soigner et mettre en place avec à nouveau cette circulation de la parole qui reste un élément fondamental.
La fraternité est mise à mal en plus, ô combien aujourd'hui, à notre époque, vous avez raison de le préciser, Muriel Sibilla. Donc soignez votre famille. Peut-être que Mère Teresa a la bonne réponse quand elle dit que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous, aimez votre famille. Je trouve ça très drôle. Et peut-être très vrai. Anne-Catherine Sabat, qu'en pensez-vous effectivement ?
Alors, je pense avec Carl référence. Gustav Jung, ouais. qui nous disait « Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste ? Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche ? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira. »
C'est-à-dire sortir soi-même du ressentiment quand il y en a, c'est ça ?
Alors oui, sortir du ressentiment et puis se mettre en mouvement, parce que finalement c'est ça la vie, c'est un mouvement vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus paisible, de plus épanouissant. Et ça veut dire d'abord accepter que toute relation, les relations fraternelles, mais aussi celles qu'on a avec nos parents, puissent être émaillées de couacs, de conflits. C'est ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est que c'est normal qu'il y ait des moments où ça coince, où ça frotte, et voir ce qu'on peut en faire, se mettre en mouvement vers la compréhension de ce qui joue, la guérison de nos blessures, un positionnement différent parfois, parce que si on regarde l'autre différemment, évidemment avec plus de tolérance, on va changer des choses. Hein. Se mettre en mouvement vers ça. Qu'est-ce qu'on peut construire de bon, malgré nos différences, malgré nos frottements, malgré nos conflits?
Ouais, c'est vrai que là, vous évoquiez l'analyse transactionnelle, le triangle de Cartman que nos auditeurs connaissent parce que il n'y a pas besoin d'être grand psy pour connaître ce triangle de fonctionnement avec victime, bourreau et sauveur. Je crois que si je me trompe pas, de bonne mémoire. Gérard Haddad, effectivement, pour sortir de ce triangle, c'est vrai que dans toutes les familles, il y a un peu de ça. Il y a un peu le côté un peu les victimes, les petits bourreaux et les petits sauveurs, quoi. C'est un peu ça finalement, bien souvent.
Écoutez.
Je sais que vous êtes détesté en tant que psychanalyste, certainement, les classifications, mais...
Oui, n'est-ce pas ? C'est vrai. Ceci dit, il faut quand même qu'on resitue notre discours.
Oui.
Nous parlons, au fond, des difficultés du lien social. Nous vivons une terrible période de cette pandémie qui, avec ses gestes barrières, met en question le lien social.
Nous et donc fraternel, ça que vous voulez dire.
Oui. Et oui, nous allons vivre une crise de société épouvantable. À la suite, si on sort de cette pandémie, tous les liens sont actuellement distendus, on ne se voit plus, on ne se touche plus, mais c'est dingue ce que l'on vit. Et ça, il faut le dire, parce que nous, on est en train de faire des belles choses comme ça, mais ce que nous vivons, parce que ce que les gens veulent entendre, c'est qu'on parle de leur souffrance actuelle.
Ouais.
Et leur souffrance actuelle est très grande. Il faut savoir qu'en psychiatrie, aujourd'hui, les services psychiatriques explosent devant les crises et les dépressions que les gens connaissent. Les suicides se multiplient. Nous vivons une chose épouvantable.
De plus en plus jeune. Et donc, famille peut-être justement, c'est ça que vous les aviez dire.
Oui, c'est ce que je veux dire, d'avoir un frère ou une sœur, c'est quand même en ce moment un joli...
Un joli cadeau,
oui, un remède. Il faudrait que nous parlions, donc une autre fois, je me sens invité à parler de l'enfant unique, et j'accepte par avance, et je voudrais qu'on resitue notre parole d'aujourd'hui dans ce cadre que nous vivons, qui est concret. Il faut parler aux gens des choses concrètes, des choses qui vivent, et pas s'envoler dans des grandes théories.
Ouais. Bah, on essaye de le faire dans Enquête de sens, mais merci de nous le rappeler, cher Gérard.
J'essaie de mettre mon petit grain de sel dans ce débat, parce que c'est ce que nous vivons, vous et moi, actuellement.
Donc vous êtes en train de nous dire entre les lignes que finalement, peut-être est-ce l'occasion en ce moment de dépasser un petit peu ces petits ressentiments à deux balles et de s'accrocher à ce qu'on a de sûr, c'est-à-dire la famille. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire ?
La famille, les amis, le redonner de... Parce qu'au fond, c'est quoi la famille ? Tout à l'heure, on l'a dit, c'est le laboratoire de ce qui va devenir notre vie sociale.
Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est vrai ?
Je pense que c'est la vérité évidente.
Donc, la façon dont on se comporte dans notre famille, ça va donner lieu à des...
C'est là qu'on apprend la vie sociale, la famille. Quand on est tout petit, on a un an ou deux, ou trois, ou quatre, on apprend à vivre... C'est ça qui est formateur du lien social qui va devenir... Et ça, c'est très important de comprendre. Il y a une lettre que j'ai citée de Freud qui dit... que Napoléon, par exemple, a détesté Joseph, puis il va l'adorer, sauf que cette haine, il va la déplacer sur l'autre, sur celui qui n'est pas français, qui n'est pas corse. Et finalement, les guerres proviennent de cette haine fraternelle qui est dépassée dans le cadre familial, mais qui est transférée sur l'étranger, le mécréant, celui qui n'appartient pas à notre communauté, à notre religion. C'est là l'origine de la violence. L'origine de la violence, c'est le fraternel qui est surmonté, mais qui est déplacé sur l'autre, le voisin, l'étranger,
dont on va se méfier,
haïr, et on va vouloir l'expulser. Et ça, c'est une tragédie. Et ça, il faut le savoir, il faut le dire. C'est le but de mon livre, de mettre l'accent là-dessus, quoi.
Ouais.
Le déplacement de la haine fraternelle. On peut dépasser sa haine du frère à condition qu'on ne la transfère pas ailleurs. Sur l'étranger, le voisin.
D'où le fait de se regarder un peu dans la glace de façon un peu plus approfondie, de temps à autre, quoi. Enfin, avec l'aide de quelqu'un.
un prêtre. Dans une radio Notre-Dame, on peut dire que la Bible là-dessus nous enseigne beaucoup de choses. Ouais. En particulier, par exemple, il y en a un qui a surmonté sa haine fraternelle. Il y en a au moins deux. Pour moi, il y a d'abord Isaac qui a aimé son frère Ismaël, ou qui a vécu en bon terme avec lui. Et puis surtout Joseph, qui a été battu.
Vendu.
On a voulu le tuer d'abord. On l'a mis à mort, etc. On l'a vendu comme esclave. Et bien ce Joseph-là a réussi. C'est magnifique exemple que donne la Bible. Il y a moyen, quand on a un peu de la qualité, évidemment, le personnage Joseph est exceptionnel. Il y a des saints comme Joseph qui. Et c'est ça, au fond, la sainteté pour moi. C'est de surmonter cette haine initiale que nous avons.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très primitif, Muriel Sivilla, dans les j'ai qu'une envie, c'est de lui casser la gueule. Finalement, quelle est la conclusion que vous apportez pour surmonter, comme le dit Gérard, quelle serait finalement la recette pour conclure ?
Bah déjà, de pouvoir le dire, et une fois qu'on l'a dit, d'avoir la possibilité, grâce au soutien de l'entourage au sens large, qu'il soit du corps soignant ou du corps familial, de pouvoir transformer ce sentiment-là. Et par exemple, dans mon livre « Sortir de l'ombre », le psychologue Jacques Lecomte propose une option qui est de reconnaître aux fratries d'enfants malades le statut de victime.
Ouais.
Et ce qui est, en général, on considère que la victime, c'est celui qui est en difficulté, celui qui est malade ou handicapé.
Eh bien, je vous remercie. Malheureusement, l'émission touche à sa fin, cher Muriel Sivilla.
Moi, j'ajouterais quand même...
Auteur de Sortir de l'ombre, les frères et sœurs, on n'a plus le temps, cher Gérard, d'enfants gravement malades chez Sledkin. Gérard Haddad, donc, à votre livre, à l'origine de la violence chez Salvatore et Anne-Catherine Sabat. Merci pour votre livre également, Une famille enfin paisible, remarquable, aux éditions du Rocher. Merci à vous trois.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Eh bien, merci pour votre écoute et votre fidélité. Demain, c'est quoi la beauté intérieure ? Nous nous en occuperons avec nos deux invités d'Enquête de sens.
Oxygène.
Tous les jours à 8h45, Radio Notre-Dame vous offre un bol d'oxygène. Les questions essentielles de notre vie abordées par un prêtre dans un langage franc et direct. Oxygène, tous les jours à 8h45.